Bonsoir à chacun. Je vous invite à prendre vos Bibles, pour ceux qui l'ont. Nous lisons quelques versets, premièrement dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Un autre texte dans le psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Il y a deux expressions qui ont attiré mon attention dans ces deux textes, c'est que Dieu veut nous arracher au danger. Et la deuxième partie, qui est heureux ceux qui cherchent en lui un refuge. De quel danger est-il question ? On peut se poser la question. Ce soir, nous ne sommes pas tellement en danger. On pourrait se dire, on est bien là, dans notre salle chauffée. Il y en a qui se réunissent et risquent bien plus que ça. Ils sont en bien plus grand danger que nous. Pour autant, attention, car oui, nous sommes en danger. Nous sommes en danger et Dieu veut nous arracher à un danger qu'on ne soupçonne peut-être pas. Mais nous sommes en danger. Il y a un combat spirituel entre Satan, le diable, et Dieu. Et dans ce combat-là, Satan, un jour, s'est enorgueilli et est tombé dans le péché. Et suite à sa chute, il a cherché à entraîner l'homme dans sa chute et il l'a empoisonné, entre guillemets, si je peux dire comme ça. Il a empoisonné l'homme par le péché. Le péché a été introduit par Satan dès le début de l'humanité. Et quand on naît, tout simplement, quand on est pécheur. Il y a une expression qui dit « on ne naît pas chrétien, on le devient ». Mais par contre, laissez-moi vous dire que vous naissez pécheur. Ça, c'est sûr et certain. On est tous pécheurs. Regardez avec moi le psaume 14 à présent. Le psaume 14, il est assez clair sur ce domaine-là. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel dit aux cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. C'est le triste constat que fait Dieu sur l'humanité, sur ce que sont les hommes, les femmes. On est tous pécheurs. Et pourtant, Dieu a cherché. Il n'y en a pas un, pas même un seul. Et que dit la parole ? Tous sont égarés. Tous sont pervertis. J'ai inversé les points, mais ce n'est pas grave. Je suis allé voir dans le dictionnaire ce que ça voulait dire pervertir. Vous savez ce que ça veut dire ? Il y a deux définitions. Faire changer quelqu'un en mal. Corrompre, dépraver, dévoyer. Deuxième sens, c'est détourner quelque chose de son sens ou de ses buts. L'homme n'a pas été créé pour être ce triste constat du psaume 14. L'homme a été créé pour être en communion avec Dieu. L'homme a été créé pour être dépendant de Dieu jour après jour. L'homme n'a pas été créé pour être appelé à se débrouiller seul. Et quelque part, c'est un peu la graine que le diable a semée en nous. L'homme prône son indépendance aujourd'hui. Je suis capable de me débrouiller tout seul. Alors oui, on a le droit à une certaine autonomie. Dieu nous a laissés libres. Et Dieu nous a donné le fait de pouvoir apprendre, de pouvoir grandir, de pouvoir nous améliorer, etc. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais est-ce que Dieu a fait l'homme pour qu'il reste seul? Non. L'homme avait deux besoins. Il avait besoin de Dieu premièrement, et quand Adam était seul, il y avait aussi un autre besoin qui était celui de sa femme. Et là, on a une entité telle que Dieu le veut. Cette histoire de vouloir se débrouiller seul, ça me faisait penser à une petite expérience. Vous l'avez tous vécu dans un endroit ou un autre, vous voyez un petit enfant, il essaye de faire quelque chose, mais c'est trop compliqué pour lui. Alors il essaye. Et nous, on est là à côté, nous sommes grands, on le voit faire, et puis on sait très bien qu'il n'y arrivera pas. Et puis on le voit qu'il essaye. Et puis à un moment donné, il a fait le tour de la question, et puis il nous regarde, il fait « Papa, tu peux faire pour moi ?» Et je crois que quand Dieu a créé l'homme, c'est exactement ça. Le diable, quand il a semé le péché en nous, il a essayé de semer ça, le fait qu'on puisse essayer de se débrouiller tout seul, le fait qu'on doit essayer de trouver en nous-mêmes la solution au problème. Mais laissez-moi vous dire que c'est pas en l'homme qu'est la solution. C'est pas en nous-mêmes qu'est la solution à nos problèmes. Le diable fait croire à l'homme ainsi qu'il n'a pas besoin de Dieu. Or, quand ça devient trop compliqué pour nous, je crois que c'est tout à fait normal que d'accepter qu'on a besoin d'aide. C'est biblique. L'homme a été créé avec des limites. L'homme ne peut pas rester seul. Certains vont essayer de trouver des refuges par eux-mêmes. Et malheureusement, on ne peut que constater que les refuges qu'on se trouve par soi-même sont rarement de bons refuges. Face à la solitude, on peut être tenté de se plonger dans l'alcoolisme pour avoir un petit peu de gaieté. Mais dans quoi on met les pieds ? On met les pieds dans des chaînes qui vont nous tenir des années et des années, sans pouvoir même qu'on puisse s'en sortir. L'homme, parce qu'il a besoin de pas vouloir regarder la réalité en face par rapport à sa famille, sa situation de famille, va trouver un refuge dans son travail. Bien sûr qu'on doit tous travailler. Mais j'ai connu quelqu'un qui, quand j'étais ingénieur, qui m'avait dit « Tu sais, moi, je rentre tard le soir, pas parce que j'aime mon boulot, mais parce que je peux pas m'occuper des enfants et de ma femme. Donc, je travaille, et plus je travaille tard, et moins je m'occupe de ma famille. » Son travail était son refuge. Mais ça n'a jamais réglé le problème. Ce n'était que fuir un problème. Au lieu de vouloir le régler, il fuyait tous les soirs, et il ne voulait pas s'occuper ni de ses enfants, ni de son épouse. Il avait des problèmes dans sa famille, mais il ne faisait rien pour les régler. J'ai connu quelqu'un aussi qui était dans une solitude extrême. Pourtant, il a plus de 10 000 amis sur Facebook. Mais dans sa vie, il est tout le temps seul. Sur Facebook, il est super actif. Et il m'expliquait... ça fait longtemps que je connais cet homme-là. Et il m'avait expliqué, il était tout content. « Ouais, j'ai passé le cap des 10 000 amis sur Facebook. » Moi, je n'avais pas de compte Facebook à l'époque. Chez moi, j'en ai pas et je m'en porte pas plus mal. Mais par contre, lui, je savais qu'il était seul. Il était seul. Il se battait contre la solitude. Et pourtant, il a cherché un refuge qui n'était pas le bon. On est tous égarés. On est tous pervertis, on cherche par nous-mêmes des solutions et on n'arrive pas à en trouver. On est tous perdus. Certains vont essayer aussi de se trouver le refuge des bonnes actions, on peut aller jusque-là, des bonnes œuvres. Parce qu'on est mal dans sa peau, alors on se trouve en porte-à-faux, on sait que Dieu existe, on a imaginé qu'effectivement il y avait peut-être l'enfer, il y avait peut-être le paradis, on n'en est pas très sûr. Alors pour se soulager sa conscience, on va donner un peu d'argent au Téléthon, à droite, à gauche. Et à quoi ça rime ? Parce que finalement, on n'est pas plus soulagé. C'est pas le fait de faire de bonnes actions qui va régler le problème. Nous sommes en danger. La Bible nous dit que cet empoisonnement que l'humanité a subi, ça s'appelle le péché. Et la Bible est claire sur le péché. Elle dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible dit aussi que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu ne peut pas tolérer le péché en sa présence. Et c'est pour ça que nous sommes séparés de Dieu. On est séparés de Dieu. Le fait d'être séparés de Dieu ainsi, c'est ça qui nous rend mal à l'aise. C'est ça qui fait qu'on sent qu'il y a quelque chose. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, donc on s'imagine bien qu'il y a quelque chose. On s'est tous posé cette question-là un jour ou l'autre de notre vie. Et pourtant, il y a ce problème-là qui est là, on ne sait pas le régler, on se sent quelque part en danger, mais on ne sait pas où aller, on ne sait pas dans quel refuge se réfugier. On ne sait pas quoi faire. On est égaré. On a été perverti et nous sommes aussi égarés. Non seulement on est empoisonné, mais en plus on ne sait pas où aller. Pour couronner le tout, aux yeux de Dieu, le péché est juste intolérable. On pourrait se dire, le tableau est noir. Dieu ne peut pas tolérer le péché en sa présence, ce n'est pas possible. Le péché, pour Dieu, c'est un crime. Alors, heureusement, Dieu avait prévu ça. Dieu n'est jamais pris de court, et Dieu savait ce qui pouvait arriver, et Dieu avait prévu, même dans l'Ancien Testament, vous savez, dans l'Ancien Testament, chez les Juifs, si quelqu'un avait commis un meurtre involontairement, il pouvait bénéficier d'une ville de refuge. Dieu avait prévu pour ces personnes-là de pouvoir aller se réfugier dans des villes pour lesquelles ils ne pourraient pas être poursuivis. On pourrait juste... Il y a un verset qui le dit, enfin, et on ne va pas lire tout, mais dans le livre de Josué, au chapitre 20, on le voit bien. Il est écrit, « L'Éternel parla à Josué et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, « Établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, celui qui voudrait faire justice. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. » Quelle grâce quand même de savoir que Dieu avait prévu ce cas-là, au point même que quand quelqu'un vient dans la ville, une demeure est prévue, quoi, pour qu'il puisse habiter en paix. Dieu veut nous faire du bien. Dieu, il veut nous guérir. Dieu, il veut nous tirer, nous arracher du danger. Le danger du péché, Dieu veut nous en sortir aussi. Et ça, c'est les villes de l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, ce même refuge existe encore. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 26, nous voyons là encore un exemple de ce refuge. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Remarquez que là, il est un refuge pour lequel les remparts sont le salut. Il est bâti sur le rocher, c'est écrit plus loin, sur le rocher qu'est l'Éternel. Il existe aujourd'hui ce refuge. Et tel que nous l'avons lu, les portes sont ouvertes. Les portes de ce salut sont ouvertes. Ouvrez les portes et laissez entrer, pas n'importe qui, la nation juste et fidèle. La Bible nous dit que Jésus-Christ est la porte. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Autrement dit, personne ne peut rentrer dans ce refuge si ce n'est en passant par moi. Je suis le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Je suis la porte. Ne cherchez pas des refuges à droite et à gauche, il n'y en a qu'un seul. Et pour rentrer dans ce refuge-là, il faut passer par Jésus-Christ. Il est la seule voie possible. On ne peut pas se racheter nous-mêmes, on ne peut pas non plus cacher nos fautes, parce que tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est aussi écrit dans la parole. Jésus, c'est la porte. Il nous faut passer par cette porte. Jésus est mort sur la croix, qui symbolise cette porte. La mort de Jésus sur la croix du calvaire nous montre justement cette porte. Sans la vie de Jésus sur la terre, avec toutes ses souffrances, son obéissance, son abnégation, son regard d'amour pour tous ceux qui l'entouraient, alors qu'il était méprisé, alors qu'il était considéré comme un criminel, il est mort au milieu de deux criminels, à la pire des morts possibles. Pourquoi il a fait ça ? Pour nous ouvrir les portes, pour nous ouvrir la porte du refuge. C'est le seul refuge auquel nous puissions avoir accès, avoir la paix. Seulement, voilà, les seuls qui peuvent y entrer sont ceux qui sont justes et fidèles. Il faut rentrer par cette porte-là. Pour y rentrer, il faut être juste. Et pour être juste, tel que nous sommes, ce n'est pas possible. Jésus, le seul juste, a ouvert la porte, mais il est mort pour que nous puissions être justes. Par sa mort à la croix, nous sommes justes. Par celui qui demande pardon pour ses péchés, pour son état, pour sa nature pécheresse. Seigneur, pardonne-moi parce que je suis un pécheur. Comme le criait ce publicain dans le temple, Seigneur, pardonne-moi, tu vois dans quel état je suis. Tel que je suis, Seigneur, je viens à toi. Avec mon péché, avec mes problèmes, avec mes soucis, avec ma maladie. Seigneur, je viens à toi. Tu vois aussi comment je, réunion après réunion, je suis dans l'opposition et je ne marche pas, je ne me décide pas. Seigneur, pardonne-moi. Ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon. Là, on devient juste. Parce que le Seigneur nous pardonne. Il nous demande de pardonner parce que lui pardonne. Et il n'y a rien que le Seigneur ne peut pas pardonner. Rien du tout. Alors nous pouvons nous approcher de lui avec assurance, parce qu'il va nous pardonner si nous avons ce cœur sincère, si nous avons ce face-à-face avec lui en disant « Seigneur, c'est tel que je suis que je viens, avec mes guenilles, avec mes vêtements sales, avec tout ce dont j'ai honte. Seigneur, je m'approche de toi tel que je suis. Viens me délivrer. » Viens me guérir complètement de ce qui m'enchaîne. Voilà ce qui nous rend juste. Mais ce n'est pas suffisant. C'est suffisant dans un sens. Parce que on peut être sauvé de cette manière-là. Le brigand sur la croix a été sauvé de cette manière-là. Il n'a pas eu le temps d'avoir Jésus-Christ pour Seigneur. Ce que je voudrais souligner, c'est que si on n'est pas fidèle, on risque de se remettre en proie aux mêmes dangers dans lesquels on a été jusqu'à présent. Celui qui ne choisit pas de suivre le Seigneur de tout son cœur se remet lui-même en danger. Certes, j'ai été sauvé, mais à la première tribulation, à la première épreuve, à la première difficulté, si je n'ai pas choisi de suivre mon Seigneur et que je continue de persister dans ce qui m'enchaîne, je vais rester en danger. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le refuge. Il faut rentrer, mais pour rentrer, il faut être aussi fidèle. Ça veut dire qu'il faut s'engager à le suivre, il faut s'engager à vouloir marcher dans ses pas, les uns après les autres. Il faut s'engager à faire de Jésus-Christ son Seigneur, à savoir, Seigneur, voilà, tu m'as dit que ce que je vis là dans ta parole, c'est pas dans, c'est, tu ne l'acceptes pas, Seigneur, je veux réparer ça. Je te demande pardon, mais je répare aussi, je veux réparer. Ma situation, Seigneur, ne te plaît pas. Ok, merci de me l'avoir dit, mais c'est pas le tout de dire merci, Seigneur, je te demande pardon, mais derrière, il faut vouloir réparer, il faut rentrer dans ce processus-là où le Seigneur nous appelle à marcher à sa suite, le Seigneur nous appelle à rentrer dans cette fidélité-là, parce que c'est dans cette fidélité-là qu'on pourra passer vraiment la porte du refuge. Celui qui est dans cet état d'esprit rentre dans le refuge. Et dans le refuge, quelle grâce on y trouve. On y trouve la paix. Seulement, voilà, pour y rentrer, il faut être ferme dans ses sentiments. Il faut être résolu. Oui, Seigneur, je te demande pardon et je décide de tout mon cœur d'arrêter ce qui ne te plaît pas, de réparer ma situation. Et celui qui est ferme et qui est résolu pourra rentrer. C'est pour ça qu'il pourra trouver la paix, parce qu'il sera là dans le refuge, parce qu'il aura pris cette résolution intérieure, parce qu'il aura pris cette décision de rentrer et de régler la situation. Alors, dans le refuge, il y trouve la paix que Dieu veut nous donner. Regardez avec quelle patience le Seigneur nous attend. Dans Isaïe, au chapitre 30, au verset 18, il est écrit « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Continuer un peu. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Il est question aussi de... Il y a une autre version qui dit... Oui, celui qui t'enseigne ne se cachera plus, tu verras de tes yeux le maître qui t'instruit. Voilà la promesse. Une fois dans le refuge, une fois dans le ciel, dans la patrie céleste, nous verrons ce Dieu face à face. Celui qui est mort pour nous, pour nous sauver. Celui qui veut justement enlever les angoisses qui sont dans notre cœur et les remplacer par quelque chose de tellement meilleur. Seulement, il attend le moment. Il attend le moment de nous faire grâce. L'autre version nous dit « Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce. » Pourquoi il attend ? Mais parce qu'on ne s'avance pas, parce qu'on ne se décide pas, parce qu'on traîne, parce qu'on remet à demain. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça indéfiniment. Un jour, la porte de ce refuge sera à nouveau fermée. C'est écrit aussi dans l'Évangile de Matthieu. C'est écrit au chapitre 25, verset 10. « Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. » Il est question de la porte aussi de la grâce de Dieu. Dieu attend jusqu'au dernier. Mais un jour, ces portes seront bel et bien fermées. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit aussi « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Parce que on se prive d'entrer dans le repos. On se prive d'entrer dans ce refuge éternel que Dieu veut nous donner. On se prive d'avoir l'Éternel comme rempart autour de nous. Comme nous l'avons lu en introduction, il est l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ça, c'est la grâce de celui qui est dans le refuge. Ce soir, j'aimerais qu'on se courbe quelques instants. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur nous supplie. Dans cet épître, ce passage est cité plusieurs fois, alors que dans l'Ancien Testament, il l'est aussi. Et c'est quelque chose de primordial. Ne pas reporter à demain la décision. Ne pas reporter à demain le fait de demander pardon au Seigneur Jésus. Ne pas reporter à demain le fait de se décider une fois pour toutes à régler les problèmes. Peut-être que ce soir, vous vous sentez dans dans la peau de celui qui a essayé de trouver des refuges par lui-même, de celui qui a essayé de se réfugier à droite, à gauche, sans pouvoir trouver la solution. La solution, elle est là ce soir. Est-ce que tu acceptes Jésus ? Est-ce que tu acceptes qu'il soit mort pour toi à la croix du calvaire ? Est-ce que tu acceptes que son sang a coulé pour toi ? Est-ce que tu acceptes simplement de lui demander pardon de tout ton cœur ?